Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à un autre épisode de Jason Ballon Rond, l'épisode 14. Mon nom est Olivier Prince-Groslot, je serai à l'animation de ce balado. Et puis avec nous, c'est un épisode spécial parce qu'on a, on a premièrement Douali Ibrahim, un habitué. Salut Dou.
Salut, on a deux.
Salut, ça va très bien, merci. Et on a deux autres nouveaux qui nous rejoignent à Jason Ballon Rond. Je parle de Baptiste Rastello et de Hans Junior Najimé. J'espère que je n'ai pas trop massacré ton nom, Hans. Bon. Mais voilà, bienvenue les gars à Jason Ballon Rond. Si
merci
vous voulez
beaucoup.
Vous présenter un peu Baptiste en premier, allons-y.
Je suis un grand passionné de foot, puis ça m'a fait très plaisir de rejoindre Jason Ballon Rond. Puis je suis très content d'être là aujourd'hui pour discuter de plein de choses par rapport au Ballon Rond.
Ouais, puis Baptiste, ton propre podcast, je crois, Footcast.
Ouais, exactement. Donc, j'ai mon propre podcast. Moi, c'est sur YouTube. Faudrait que je trouve un moyen. Faudrait que je le mette sur Spotify éventuellement pour essayer de le rendre accessible à plus de gens. Mais ouais, en ce moment, c'est Footcast. Puis c'est pas mal plaisant de faire des podcasts.
Yes. C'est des entrevues avec des joueurs, notamment.
Ouais, donc chaque fois, je fais des entrevues avec des joueurs. Mais tu sais, ça peut aller au-delà des joueurs, là. Ça peut être juste des personnalités sportives dans le monde du soccer. Donc ouais, pour l'instant, j'ai juste eu des joueurs pour le moment.
Cool. Yes, sir. Puis toi, Hans, comment ça va?
Ça va très, très bien. Content de rejoindre l'équipe de Jason Ballon Rond. Joueur de soccer à temps plein, disons, semi-professionnel, aussi de futsal. Donc, j'ai beaucoup côtoyé le soccer depuis que je suis jeune. Je connais beaucoup de gens qui sont allés loin, qui ont été loin aussi. Donc, je suis content de partager ça avec vous aujourd'hui. Puis, voilà. Et prochaine fois aussi.
Yes, vous deux, vous amenez des perspectives très, très intéressantes. Puis, on est très heureux de vous accueillir dans la belle équipe de Jason Ballon Rond. Donc, gros épisode pour votre premier parce que, samedi, le CF Montréal a été éliminé des séries éliminatoires, un scénario assez crève-cœur parce que, bref, jusqu'à la toute fin du Decision Day, on croyait que le CF passerait, mais un but des Red Bulls ont fait en sorte que le CF a été éliminé. Je vais commencer avec Dou. Qu'est-ce que ton bilan un peu ou qu'est-ce que tu penses de cette fin de saison-là, de la saison dans l'ensemble du CF Montréal?
Ben écoute, c'est vrai que c'est quand même une déception, comme tu l'as mentionné. Là. Mais pour moi, écoute, comme Patrice Bernier l'avait mentionné dans un de ses tweets pas plus tard que samedi, écoute, le CF s'est éliminé un peu plus tôt que lors du dernier match. Pour vrai, moi, je pense surtout à deux matchs au Stade Saputo que le CF a accordé des matchs nuls, notamment celui de, je crois que c'était DC United de 0-0 et surtout le match nul contre Cincinnati. En fin de rencontre, ça, c'est déjà des points qui ont fait mal là, au CF Montréal. Puis à ce moment-là, moi, je me suis dit que c'était une mission quasi impossible que le CF réussisse à se qualifier pour la ronde éliminatoire. Puis en plus, écoute, quand même, il faut se dire, là, la logique a été respectée. Là. On savait que pour le début de la saison, le CF se retrouvait avec une équipe avec beaucoup moins de profondeur en raison de nombreux départs, là, surtout via le marché des transferts. Là, on peut penser à Lester Johnston, à Ismaël Koné, même à d'autres gars qui sont partis également, là, des Kai Kamara. Kai Kamara, en plus, que moi, je pense, aurait eu son utilité cette saison, surtout avec l'anglaise de Romain Kyoto. Écoute, on s'est retrouvé avec une équipe du CF qui était amoindrie par le manque, je dirais non seulement de talent, mais surtout le manque de profondeur là, à l'équipe, parmi l'équipe. Et aussi, évidemment, se retrouver avec non seulement cette formation-là, mais aussi avec un nouvel entraîneur, Hernan Lanzada, qui, il faut le rappeler quand même, était à sa première saison avec le CF. Écoute, ça a été une saison, oui, une saison dentie, Mais quand même, c'est un exploit. Malgré tout ce changement-là, c'est quand même un exploit que Seth a été capable d'être dans le portrait des sénateurs jusqu'à la dernière journée. Là. Donc, c'est assez compliqué à analyser tout ça, là, je trouve, là, parce que il y a des points positifs, mais il y a aussi beaucoup de points négatifs. Puis je vais laisser un peu d'autres jus, puis d'autres éléments, surtout aux autres gars, pour expliquer vraiment la saison du CF.
Ouais, avant que vous embarquiez, les gars, juste dire le 0-0 que tu as mentionné, je pense que c'est contre le Fire de Chicago. Et
ah oui, oui, merci. Si on, ouais.
Pas trop. Mais oui, Baptiste, si tu veux enchaîner sur les mots de Doux.
Ouais, ben moi, je pense. Tu sais, Doux t'a parlé des mauvais résultats, les mauvais matchs nuls, mais je pense qu'il a été compliqué pour le CF Montréal cette année. C'est des mauvaises séries à des mauvais moments. Tu sais, on commence la saison très mal avec une victoire sur les 7 premiers matchs, 3 points pris sur 21. Puis on l'a fini très mal également. Parce qu'on a eu 2 victoires au mois d'août. C'est nos 2 dernières victoires, à part le match contre Portland, avant le dernier match contre Columbus. Puis sinon, on fait 5 défaites, puis 2 matchs nuls. Donc, ça nous donne des séquences très difficiles à des moments qu'on ne devrait pas avoir des séquences comme ça. Puis, je pense que c'est les autres, c'est nos adversaires directs qui nous ont maintenus dans une course aux séries. Ce n'est pas nous avec nos résultats parce qu'on n'a pas pris beaucoup de points. C'est les autres équipes qui n'arrivaient pas à nous rattraper. Fait qu'on restait 8e. Puis là, malheureusement, au dernier jour, ben, on paye le prix de ce côté-là. Puis sinon, je pense qu'il a été compliqué cette année. C'est quand on regarde nos matchs contre les adversaires directs, donc ceux qui étaient juste derrière nous pour les séries, je pense à des Miami, des Red Bull, New York City, Chicago, il y a juste Charlotte, je pense, qui même au final nous est passé devant, qu'on a une fiche positive en termes de points contre eux avec un match nul, une victoire. Les autres, c'est soit une victoire, un nul, une victoire, une défaite, ou une défaite puis un nul. Donc, on ne peut pas se qualifier en série avec... quand on n'arrive pas à gagner nos adversaires directs contre les adversaires directs, puis je pense que c'est là où le CF Montréal a payé le prix cette saison.
Excellente analyse. Hans,
qu'as-tu à ajouter? Oui, comme Doux l'a dit, puis Baptiste, ils ont soulevé des très bons points. C'est les séquences de matchs qui nous ont fait mal, mais aussi, tu sais, si on repart dès le début de la saison, on sort d'une saison qui a été bonne. On s'est fait éliminer assez tôt, puis après, il y a la saga de Wilfried Nancy et tout. Donc, l'atmosphère de l'équipe, on part déjà avec quelque chose qui nuit. Déjà là, on entre dans une nouvelle saison, puis c'est pas tout à fait stable au sein du groupe. Après, ouais, c'est sûr qu'on a pris 41 points en 34 matchs, c'est pas assez. Sinon, on fait un calcul rapide, c'est 1,21 points pris par match. Donc, pour une équipe qui aspire à être en série, je trouve que c'est pas assez. Si on regarde, on a 18 défaites durant la saison. Donc, je trouve que on n'est pas entré en saison dans les meilleures conditions, puis on n'a pas fini aussi dans les meilleures conditions. Donc, ouais, le fait de ne pas aller en série, je pense que c'est une suite logique des événements qui sont produits pendant la saison. Donc, pour ma part, aucun étonnement de ce côté-là.
Moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire, les gars. Puis aussi, une stat que vous n'avez pas mentionnée, on a un différentiel de moins 16, là, ce qui est troisième pire à égalité avec les Galaxies, je pense, dans la MLS. Donc, c'est avec des chiffres comme ça, puis on a 17 défaites. Donc, même si on a 12 victoires, 17 défaites, c'est énorme. C'est la moitié de nos matchs que c'est des défaites, tout simplement. Fait que, avec tous ces chiffres-là, je pense que, comme Doux disait, la logique a été un peu respectée. Puis je voulais parler de l'effectif de l'effectif de Montréalais au début de la saison, avec la mauvaise séquence de défaites qu'on a eue, comme Baptiste le rappelait. Moi, je disais que notre effectif n'était tout simplement pas de calibre à faire les séries. Je me suis presque trompé. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de cet effectif-là? On a quand même eu des Saliba qui se sont démarqués, Sirois, Chouagnard qui a progression énorme. Donc, l'effectif, qu'est-ce qui a amélioré? Qui est-ce qui va partir aussi? On peut commencer avec Hans.
Ouais, ben moi, je suis agréablement surpris de notamment de la progression de Saliba. Au début de la saison, je n'étais pas trop sûr quel allait être son rôle. Mais au fur et à mesure, il y a eu beaucoup de confiance dans ce côté par rapport au coach et de l'équipe. Donc, je trouve qu'il a énormément progressé. Il s'est installé comme un partant qui non discutable, disons. Je trouve que dans le jeu, ça peut être toujours été beau, mais c'est vraiment la courbe de progression qui a fait en sorte qui a permis de s'installer en tant que Milieu de terrain non discutable dans le 11 partant. Sinon, Chouanière, on sait qu'il avait beaucoup de qualités, mais il a vraiment montré qu'il pouvait aller au-delà des qualités de base. Ça a été notre meilleur buteur, 5 buts.
5 passes décisives.
Exactement, notre meilleur dans cet aspect offensif-là. Défensif aussi, ça n'a pas été mauvais de son côté. Mm-hmm. Il a prouvé beaucoup de choses. Il a mérité aussi sa sélection en équipe nationale récemment. Donc, bravo à lui. Puis Sirois, quand même, on peut dire que ça a été un peu notre sauveur côté défensif avec Waterman. Les deux ont prouvé qu'on pouvait leur faire confiance. Donc, on sait qu'on a certains joueurs à amener l'année prochaine qui vont être importants pour l'équipe. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que ça a été faible au niveau des attaquants, surtout. Manque de beaucoup de chances créées, peu de chances converties. Ça a été vraiment décevant de ce côté-là. On a joué avec plusieurs attaquants qui n'ont pas su élever leur jeu d'un cran durant la saison. Donc,
Chinonzo a fort, bonjour.
Là, on va en parler. Donc, décevant dans l'ensemble, mais je trouve qu'il faut quand même se tirer du positif dans le négatif. Puis, Seroy, Waterman, Saliba. Ouais,
Waterman, bon point.
Puis,
Corbeau, j'ai bien aimé aussi en défense.
Il n'y a pas été mal. La plupart du temps. Ouais, c'est ce qu'on regarde dans l'ensemble, ça a vraiment pas été waouh, là, disons.
Ouais. Baptiste, est-ce que pour toi, Mathieu Chouanière est le joueur par excellence du CF Montréal cette année?
Moi, je pense que oui. Je pense que Chouanière, cette année, cette saison, il a pris une dimension vraiment supérieure à ce qu'il y avait à l'époque. On connaissait ses qualités, comme a dit Hans. On savait ce qu'il était capable de faire, puis on savait que c'était un excellent joueur. Mais cette année, il a vraiment été au-dessus de ce qu'on s'attendait de lui. Il est vraiment devenu un joueur indiscutable au sein de l'effectif. Peu importe le poste, que ce soit défenseur gauche, défenseur 3, au milieu de terrain, milieu offensif, toutes les positions, il a été bon, il a amené quelque chose de plus. Puis même dans le dernier match, moi, je trouve que du côté gauche, la Lasseter, son entente avec Kyoto était vraiment compliquée. Puis je ne dis pas qu'avec Chouanière, le match aurait été différent, mais je pense qu'il aurait pu amener quelque chose que la Lasseter n'a pas réussi à amener dans le match dans le Decision Day.
Ouais, j'aime mieux la Lasseter que la Palainen, par contre, sur ce côté-là. Là, bref. ouais, je suis d'accord. Puis, d'où il y a aussi Sirois, je pense, qui rentre dans la conversation pour le joueur par excellence. Là, mais d'où, qu'est-ce que t'en penses?
Mais écoute, moi, je suis 100% d'accord avec tous vos points. Pour moi, écoute, Jonathan Sirois part quand même avec un avantage, je trouve. Là, écoute, il a quand même battu le record du. Attends, 30 secondes. Excusez-moi, j'ai reçu un appel en même temps, désolé. Mais bref, je disais que. Ouais, le record blanchissage de l'histoire de la franchise, déjà, ça c'est gros. Puis, il a sauvé le CF.
C'est avec quoi, c'est 11? C'est ça, 11?
C'était 11, ouais, je ne me trompe pas. Je pense qu'il a un de plus ou deux. Je ne m'en peux plus exactement de la stats. Mais écoute, c'est quand même assez extraordinaire comme. Comme saison de la part de Jonathan Sirois. Écoute, il faut se rappeler quand même, c'était supposé d'être Pantémis qui était gardien de but numéro 1 au départ de la saison jusqu'à quand il a eu une blessure, je crois que c'est au premier ou deuxième match de saison régulière. Puis par la suite, Sirois est venu un peu à la rescousse comme remplaçant en attendant le retour de Pantémis. Puis finalement, Pantémis n'a jamais retrouvé les cages pour le CF. Donc, c'était assez extraordinaire fait comme saison de la part de Jonathan Sirois. Mais écoute, Mathieu Chouanière, aussi une progression folle, là, je trouve, de sa part aussi. Moi, ce que j'aime surtout, c'est sa polyvalence, hein, comme Baptiste vient de mentionner. Tu peux le faire jouer à plusieurs postes, puis ça, c'est la clé pour le CF Montréal, là, parce qu'il y a eu des moments cette saison où que, peut-être par le manque de profondeur, ils ont été obligés de faire des schémas assez particuliers. Là, donc, déjà, la progression de Chouanière fait que ça a rendu... Ben, en fait, ça a aidé... Le Sada a pallié peut-être le manque d'ailier. Puis aussi, je ne vous l'avais pas mentionné, puis ça, je pense que c'est quelque chose d'assez important, mais le fait que l'absence de Mihailovic, là, genre, ça s'est ressenti de fou, je trouve, cette saison. Écoute, pas de milieu offensif.
Bryce Duke n'a pas fait ce travail-là, puis Mihailovic encore moins.
Oui, c'est ça. Ça, c'est un autre cas aussi. On va pas s'embarquer là-dessus, là, mais quand même, l'absence de Mihailovic. a tellement fait de mal au CF, se retrouver sans vrai numéro 10. Puis en plus, qu'on est rendu dans une réalité où qu'il est, ben, dans une réalité dans le monde du foot où que les numéros 10 sont de plus en plus rares. Là, puis on dirait que le poste de numéro 10 disparaît de plus en plus. Là. Mais écoute, pour le CF, ça a été un succès l'année passée là, avec Georges Mihailovic qui était pour moi indiscutable, puis qui était un morceau hyper important de l'attaque du CF qui malheureusement n'était pas là parce qu'il était parti en Europe. Et que moi, je trouve que le CF a essayé de le remplacer avec Bryce Duke, ça n'a pas fonctionné. Puis je pense que c'est surtout ça qui a fait mal au CF, autre que peut-être d'aller chercher un vrai numéro 9. Ça aussi, ce serait un autre poste à combler aussi pour Montréal.
J'aimerais ça juste rappeler, au début de saison, avant que Bryce Duke arrive, le remplaçant de Mihailovic qu'on voulait, c'était Sean Rea. Puis finalement, lui non plus n'a pas complètement convaincu. Puis il est arrivé l'événement qui s'est passé contre Miami, où il rentre en jeu, puis 15 minutes après, il ressort du terrain. Ouais. Je pense qu'il y a eu une cassure avec son entraîneur à ce moment-là.
Mais, on l'a presque pas revu après ça, non?
On l'a pas revu du tout. Il a joué en première ligue du Québec, là, en Ligue 1 Québec. Mm-hmm. Donc, il s'entraînait, je pense, avec le club professionnel, mais il n'a pas refait d'apparition ni sur le banc, ni sur le jeu, encore moins.
Et il avait montré beaucoup de qualité dans les matchs auxquels il avait joué en début de saison.
Oui, je l'avais bien aimé, moi.
Et ça, c'est un peu dommage que... Comment ça s'est terminé, mais comment ça s'est produit là, pour la fin de saison, puis l'altercation avec l'entraîneur. Mais je pense que lui aurait pu aider ou dépanner plus que certains l'ont fait durant la saison.
Tout à fait. Puis ballon au pied, je pense que Sean Rea était un des joueurs les plus talentueux de cet effectif-là, là, honnêtement. Là, il était très habile, notamment au niveau des dribbles. Puis... bon, pour revenir sur me prononcer un peu rapidement là, sur Sirois Chouanière pour joueur par excellence, personnellement, je trouve Sirois a été sensationnel, a fait tellement de gros arrêts décisifs durant la saison. Ce qui me donne la petite avance à Chouanière, je pense, c'est l'erreur de Sirois contre Cincinnati, cette sortie-là mal calculée qui, littéralement, là, si ça n'était pas arrivé, le CF aurait pu avoir 2 points de plus et être en série. C'est tragique à dire, mais c'est à peu près ça. Donc, je pense que cette erreur-là, même si Sirois a fait un travail exceptionnel dans le reste de la saison, fait en sorte que Chouanière mérite probablement le joueur par excellence, selon moi. Puis comme vous l'avez dit, il couvre tellement de terrain, c'était l'homme à tout faire de Losada. C'était le Camavinga du CF Montréal, tout simplement. Puis, Hans, tu as parlé d'altercation avec l'entraîneur du côté de Sean Rea, mais parlant d'altercation avec Losada, Victor Wanyama, qui pour la deuxième moitié de la saison n'a presque pas joué, presque jamais titulaire. Votre avis là-dessus, commençant par Baptiste. Hans, vas-y. Ouais.
Très déçu de ne pas avoir vu Victor Wanyama sur le terrain. Je trouve que son expérience aurait pu apporter beaucoup de choses de positives au CF Montréal. Peut-être quelques points en plus ou une meilleure gestion de match dans les fins de match ou dans le match. Je trouve que les problèmes de vestiaire, ça devrait rester dans le vestiaire, mais tes meilleurs joueurs doivent être sur l'effectif, donner le plus de chances à ton équipe de gagner. Et je trouve que de ce côté-là, ça a été mal géré, si c'est de la direction, de l'entraîneur ou des joueurs, peu importe. Mais je suis quand même assez déçu de ne pas avoir vu Victor Wanyama, surtout dans une partie importante de la saison où son rôle aurait pu être... il n'aurait pas eu un impact assez majeur sur l'équipe et surtout comment l'équipe aurait géré les matchs dans la défaite, dans la victoire, peu importe. Donc, je trouve que c'est dommage de ce côté-là.
Au début de saison...
Vas-y, oui.
Tu peux aller si tu veux.
J'y vais. Non, mais j'allais juste dire que c'était des différentes tactiques avec le Sadam, mais continue.
Ouais. Ouais, au début de saison, on sait que Samuel Piette s'est blessé dès le match contre Vancouver. Puis Saliba était jumelé à Wanyama. Puis ça marchait plus ou moins, mais c'était plus parce que Saliba était encore sur la pente progressive. Il n'avait pas encore atteint le potentiel qu'il a atteint en la fin de saison. Puis en deuxième partie de saison, quand Piette est revenu, on sait que c'est le capitaine de l'équipe, a pris la place de Wanyama au lieu de prendre la place de Saliba. Puis moi, j'aurais bien voulu voir parce qu'on sait que la fin de saison était très compliquée, mais pourtant, on revoyait quand même Piet Saliba, Piet Saliba, Piet Saliba à tous les matchs. J'aurais aimé ça voir revoir Wanyama avec Saliba en la fin de saison, quand Saliba avait atteint un niveau qui était vraiment plus du niveau de la MLS.
Donc, toi, tu aurais mis Samuel Piette sur le banc?
J'aurais pas nécessairement mis Piette sur le banc tous les matchs, mais j'aurais voulu voir Wanyama, parce que je trouve que quand on a la deuxième masse salariale la plus faible de la Ligue, de mettre le gars qui est le mieux payé de l'équipe sur le banc, ça fait mal. Puis au-delà de ça, Wanyama, c'est une grosse présence, c'est un bon joueur, un gars qui peut faire beaucoup de bien dans un milieu de terrain, même s'il n'y a pas un bon début de saison à l'image de l'équipe. C'est un gars qui, tu mets sur le terrain, il peut amener beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
C'est un gros bonhomme en plus, il ne faut pas l'oublier. Là, ouais. C'est ça la différence entre lui et Piet. C'est que Piet, oui, il a un peu assez de jeu. Ça, j'aime ça comparer à ça, mais je trouve qu'il me fait un peu penser à Blaise Matuidi par moment, là, surtout par son apport, puis surtout le fait que les deux sont pas, c'était pas les plus techniques. Là. Donc, c'est surtout pour ça que je faisais la comparaison. Mais c'est vrai que ça a été. Je suis 100% d'accord avec Baptiste. Moi, je pensais vraiment à ça, au fait de peut-être mettre Saliba et Wanyama ensemble. Parce que, écoute, on le sait, on peut pas mettre. Sam ne peut pas mettre Piet et Wanyama ensemble en même temps sur le terrain. Je pense pas que ce soit possible parce que c'est deux joueurs qui sont à peu près au même poste. Donc, c'est sûr que si tu mets les deux ensemble, ça a marché l'an passé, mais c'est parce que...
On avait un effectif différent, oui.
C'est ça, mais... non, pour vrai, Baptiste, t'amènes un sport de bon point. Moi aussi, je trouve ça dommage qu'on n'a pas vu Wanyama avec Saliba. Surtout quand on voit la progression de Saliba, ça va être intéressant d'avoir les deux, surtout que, quand même, Wanyama, c'est le joueur le mieux payé du CF. Puis, tu sais, le CF, on le sait, là, comme il vient de mentionner, c'est pas... c'est pas l'équipe la plus riche de la MLS. Donc, non seulement tu n'as pas beaucoup de moyens, mais en plus, c'est rendu que tu te permets de mettre ton joueur le mieux payé sur le banc, ça donne pas une bonne image pour la formation.
Tout à fait. Puis, je pense que c'est la femme de Wanyama qui est sortie sur les réseaux sociaux pour expliquer que c'était une mésentente tactique entre Wanyama et le Sada qui a fait en sorte que le Sada a cloué ou presque Wanyama sur le banc pour le reste de la saison. Puis je suis d'accord avec vous, c'est dommage parce que niveau protection de ballon, récupération, Wanyama, je pense que tu n'es pas meilleur que lui dans cette équipe-là. Puis c'était les derniers moments, très, très, très possiblement, c'était les derniers moments de Wanyama avec le CF Montréal, comme pour Romel Kyoto d'ailleurs, là, qui semble être sur le point de quitter. Et maintenant, là, je pense qu'on est rendu à parler de l'Osada pour clore ce chapitre CF Montréal. Est-ce que le Sada reste ou ne reste pas? On va commencer avec, Hans.
Selon moi, je trouve qu'il a montré quand même des belles choses dans le peu de wow à retenir dans cette saison du CF Montréal. Par contre, le congédier ou l'envoyer ailleurs dès sa première saison, je trouve que ça serait injuste. Il y a encore beaucoup de choses à prouver avec l'effectif qu'il avait. Il a quand même prouvé beaucoup de choses. Donc moi, je le garderai encore. Et peut-être... je lui donnerais les armes pour se battre, aller aux séries parce que les joueurs qu'il avait, c'était pas assez. Il a montré de belles choses. Je sais pas si c'est vraiment lui qui va nous amener à ce prochain niveau-là, l'équipe ultime, ouais. Comme Wilfried Nancy l'a fait auparavant. Par contre, je lui laisserai encore une autre chance, mais une autre année seulement.
Ouais. Pour se prouver.
Ouais, exactement, ouais. Parce qu'il s'est pas assez. Il n'a pas eu la chance de se trouver pleinement avec l'effectif qu'il avait cette année. Donc, ce serait injuste de le laisser partir tout de suite, selon moi.
Non, je suis très d'accord avec ça, Baptiste.
Moi aussi, je suis d'accord avec Hans que je pense pas que c'est la faute de l'Osada cette saison. Je pense qu'il a payé le prix de son effectif que Olivier Renard a mis à sa disposition.
Ouais.
Beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs. Puis avec ces jeunes joueurs-là, il a réussi à en amener quand même, si on a parlé de Sirois, Chouanière, Saliba, entre autres, il a réussi à les amener à des dimensions vraiment plus élevées, sans parler des Gabriele Corbeau qui a été vraiment excellent cette saison également. Donc, moi, je pense qu'il y a du positif. C'est sûr que des fois, par moment, on ressentait, comme après le match contre Atlanta, comme Samuel Piette l'avait dit, on ressentait qu'il y avait de la... Le plan de jeu n'était pas clair dans ce match-là. Puis il y a d'autres matchs où on a senti ça. Mais par moments, comme entre autres contre Portland, qui je pense est le meilleur match de la saison, on a compris le système de jeu de l'Osada. Puis je pense que son système fonctionne bien. C'est juste que sur 34 matchs avec l'effectif qu'il y avait, c'est compliqué. Mais sur un 34 matchs avec un effectif, avec plus de profondeur, avec des meilleurs joueurs, avec d'autres joueurs qu'on ne va pas voir l'an prochain, puis d'autres qui vont arriver, je pense que ça peut faire la différence. Mais comme Anne se dit, moi, je lui donne la prochaine saison. Mais si elle a à la mi-saison, la saison prochaine, ça ne s'est toujours pas amélioré, là, peut-être que je vais commencer à croire qu'un nouvel entraîneur va être de mise. Mais ça va dépendre de l'effectif qu'on lui donne pour la prochaine saison. Encore.
C'est beaucoup ça. D'où?
Mais écoute, moi, j'ai rien d'autre à rajouter. Je suis 100% d'accord avec ce que Hans et Baptiste viennent dire. Je vais rien d'autre rajouter.
Ouais. Moi, ce que j'ai ajouté, c'est que le point clé de ça, c'est quel effectif il va avoir sous la main. Olivier Renard, lui aussi, là, à quel point est-ce qu'il a les mains liées par le budget de Saputo? Saputo qui semble s'intéresser beaucoup plus à Bologne qu'au CF Montréal dernièrement. Là, ça, c'est... Pour un partisan montréalais, c'est pas cool à voir. Mais quoi que c'est un peu comprenable. Bref. Donc, c'est ça. Ça va dépendre beaucoup là, des joueurs qu'on a sous la main. Est-ce qu'on va encore entrer dans ce cycle là, de vente? Est-ce qu'une vente Chouanière, Saliba, dès cet été, c'est quelque chose qui se peut, selon vous? Hans?
Ouais, si je peux me permettre, vu l'année que Chouanière a eue, je sais que sur le... Sa valeur a augmenté, donc ça ne m'étonnerait pas de voir que demain, il se fasse transférer ou qu'un autre club soit intéressé parce que le CF Montréal a tendance à offrir ses joueurs lorsqu'ils atteignent leur plein potentiel. Saliba, je pense qu'il va rester encore, il y a encore des choses à prouver, des choses à profiter dans son jeu. Mais ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'on voit que Chouanière ou bien quelqu'un d'autre qui a bien progressé cette année soit dans un autre club ou dans une autre ligue, parce que je sais qu'on a tendance à vouloir faire plus d'argent avec les joueurs. Là.
Ouais. Le problème, selon moi, c'est que l'argent n'est pas investi pour rendre l'effectif compétitif, là, comme je le voudrais, mais bon. Quelqu'un avait d'autres choses à rajouter là-dessus sur ce
type de mandat? Personnellement, je ne pense pas que Chouanière il va partir. Il pourrait partir, comme Hans l'a dit, mais moi, je pense qu'il ne va pas partir à moins d'une vraiment très bonne offre. J'ai pas l'impression que c'est un joueur qui il veut aller en Europe, je crois, puis il y a ce qu'il faut, mais pas n'importe où. Je pense pas que c'est le genre de gars qui va accepter, comme Alistair Johnston, une équipe en Scottish Premier League. Je pense pas que ça va être son style. S'il y a une offre peut-être de Ligue 1, de Première Ligue, de Championship plus intéressante, où il va jouer, je pense que c'est ça son principal intérêt, c'est de jouer, puis d'être dans une ligue qui va se faire voir. Donc, s'il y a ça, je pense qu'il va y aller. Mais moi, je vois plus un joueur comme Waterman, malgré un début de saison difficile, qui a eu une très bonne deuxième moitié de saison contre Columbus. Sans lui et Sirois, je pense que le score est pas mal plus lourd, entre autres. Mais Waterman, je pense que c'est le joueur que je vois plus partir à la mi-saison. Déjà, après sa très bonne saison l'an dernier, puis sa bonne... il n'a pas participé tant que ça à la préparation de la Coupe du Monde, mais il était dans le groupe, puis je pense que ça a attiré le regard de plusieurs personnes. Donc, moi, c'est Waterman que je vois partir cet hiver.
Je pense que oui, c'est un bon point, puis ça ferait énormément mal là, après les pertes de Miller et de Camacho cette année. Là, j'étais le premier à dire qu'on manquait de profondeur en défense. Ce qu'on a vu de Alvarez ne m'a pas vraiment convaincu. Donc, bref, je pense que ça va. Si Waterman part, il va falloir le remplacer avec quelque chose de concret. Puis pour revenir sur l'Osada, moi, si je peux amener, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, là, un bilan somme toute positif parce qu'il a fait progresser des joueurs. Mais s'il y a quelque chose que je pourrais lui reprocher, c'est il y a plusieurs choses, mais entre autres en attaque, je trouve que jamais on s'est arrêté sur une combinaison qu'on était d'accord. Là, parce que, tu sais, rendu en fin de saison, c'est plus vraiment le temps de faire des tests. Puis à la fin de saison, on était encore à jongler avec Mason Toy, avec, fort, non, moins là, en fin de saison, mais Ibrahim, est-ce qu'on met Duke? Est-ce qu'on met Ahmed Hamdi? On l'a même essayé Hamdi un match, je crois. Donc, ces combinaisons-là en attaque qu'on changeait tout le temps, jamais on a eu ce 11 fixe, du moins au niveau des attaquants ou du secteur offensif. Puis ça, je pense qu'il est rendu dans les derniers mille d'une saison. Quand tu batailles pour ta survie en plus, c'est quelque chose qui doit être fixé. ça ne l'était pas. Oui, on n'a pas l'effectif le plus riche, mais quand même, il faut que tu fasses des choix. Le Rommel est arrivé vers la fin de la saison, donc ça le, lui, c'était une évidence qu'il était titulaire, mais pour le reste, à part peut-être Opoku, que lui, c'était on l'a pas mal toujours titularisé. Le reste, ça, on jonglait tout le temps. Puis ça, je pense que c'est un point négatif parce qu'il faut que tu prennes une décision à un moment donné. Tu ne peux pas tout le temps faire des tests jusqu'en fin de saison. Fait que, je ne sais pas si vous aviez autre chose à rajouter sur le CF Montréal dans l'ensemble là, ou est-ce qu'on passe au prochain sujet?
On peut passer au prochain sujet, pardon, je crois.
Parfait, merci. Eh bien, à bientôt, CF Montréal, pour la saison 2024 et on va suivre ce qui se passe durant la saison morte également. Mm-hmm. Prochain sujet, on reste en MLS parce qu'il y a les séries hein, qui arrivent en MLS. Nouveau format aussi. Que pensez-vous du nouveau format qui, dans le fond, c'est Wild Card, les matchs barrages. Ensuite, 2-3 en quart de finale. OK. Puis après, on revient à un seul match. Moi, je vais vous le dire, je comprends pas ce format et d'où ça sort. Mais je veux vous entendre là-dessus. On peut commencer par d'où, tiens.
Écoute, tu viens de le mentionner, moi, je trouve ça trop mélangeant pour rien. Me semble que l'ancien format de match aller, match retour était plus simple. Puis écoute, c'était la meilleure des. Je trouvais que c'était la meilleure formule possible. Ça ressemblait pas mal à celle utilisée en Europe. Là. Peut-être que c'est pour ça qu'ils ont décidé aussi de retirer. Ils se sont dit que peut-être que c'était mieux de prendre un peu exemple sur d'autres sports professionnels. En Amérique du Nord. Moi, je trouve que... Puis en plus, le format séries éliminatoires semble drôlement celui du baseball, là, surtout les rondes éliminatoires, 2-3, tu sais, mais parce qu'à la fin, c'est mélangeant. Là, pour vrai, les gens ne vont pas être capables de suivre à 100% qu'est-ce qui se passe, tu sais, surtout quand comme tu viens de dire, il y a rondes éliminatoires, après ça, il y a un 2-3 encore de finale, après ça, c'est un match au demi. Pour vrai, je trouve que c'est trop mélangeant pour rien, puis... Que l'ancienne formule était beaucoup plus simple ou que comme c'était match aller, match retour, malgré que moi je trouvais que la ronde éliminatoire c'était une bonne idée. On l'a vu dans d'autres sports, par exemple la NBA avec le play-in, ça fonctionne super bien.
Le wild card, là, tu parles, les matchs
de barrage. Ouais, match de barrage. Dans la NBA, il y a un format qui est un peu similaire à ça qui est le play-in les équipes qui ont terminé 7, 8, 9, 10 s'affrontent. Dans une genre de ronde éliminatoire pour avoir la 7e et 8e place. Ça fonctionne très bien dans la NBA, donc peut-être que la MLS s'est inspirée de ça, mais moi, je trouve que la ronde éliminatoire, je trouve que c'est une belle idée, mais le reste, c'est trop mélangeant pour rien, à mon avis.
Baptiste?
Personnellement, je suis d'accord avec Doux que le format aller-retour qu'il y a eu à l'époque, on sait que la MLS, presque chaque année, le format des séries change, mais la phase aller-retour qu'il y avait à l'époque, c'est quelque chose, je trouve, qui était vraiment positif. Tu sais, en Europe, la Ligue des champions, tout le monde vibre là-dessus sur les phases aller-retour. Moi, je trouve que c'est le meilleur format. Après, je pense que, comme Doua dit, ils essayent d'américaniser ça un peu en innovant. Puis je trouve que ça a sa place pour l'essayer. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je trouve que c'est intéressant d'innover. On va voir que ça donne un format 2-3. Mais je trouve
pour seulement
que ça
une ronde, moi, c'est ça qui me gosse vraiment.
Oui, je suis d'accord. C'est ça que j'allais dire. Pour une ronde, je trouve que c'est ça le problème parce que tu fais ça pour une ronde, mais le reste, c'est un match. Mm-hmm. C'est pas trop, ça concorde pas trop. Puis moi, au contraire de Doux, par contre, pour le wild card, je comprends pas trop le but. Je veux dire, j'aurais préféré juste 1 à 8 et qualifié, puis après, phase aller-retour entre les deux équipes. 1 vs 8, 2 vs 7, etc. J'aurais plus compris ça. Je trouve que le match 8 vs 9 en wildcard, ça ne sert pas à grand-chose. T'sais, c'est sûr que ça rajoute une équipe qui a la chance de faire officiellement les séries, mais...
Ça ajoute de l'argent à la ligue parce qu'il y a plus d'équipes qui jouent plus de matchs. Donc, c'est peut-être pour ça aussi.
Je pense que ça doit être économique sur ce côté-là, mais en tant que personne qui regarde la MLS tout le temps, moi, je ne suis pas fan du tour de wildcard. Puis j'aimerais mieux avoir un format européen que la MLS commence à s'américaniser comme c'est le cas en ce moment.
Mm-hmm. Hans?
Ouais, vous avez tous soulevé les points importants. Je trouve que c'est vrai que c'est un peu un système plus nord-américain, comme Doux l'a dit, la NBA ou la MLB au baseball. Mais je pense que garder un format plus standard au soccer, comme en Europe, par contre, comme par exemple, je veux dire, ça serait juste mon avis à moi. En tout cas, j'aimerais mieux ça. Mais après, essayer de nouvelles choses, c'est toujours intéressant. C'est une nouvelle façon de voir des choses où ça peut créer aussi des surprises. On sait jamais, la deuxième équipe peut finir par se tailler une place en demi-finale, finale ou quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est une nouvelle manière de voir les choses. On va essayer, puis peut-être l'année prochaine, on va revenir aux anciennes formules. Mais c'est, la MLS, on les connaît, là, c'est garder un format stable, c'est pas dans leurs habitudes. Donc, ouais, on va découvrir ça avec en même temps, là.
Ouais, ben moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Je pense que la formule 2-3, c'est intéressant. C'est juste comme Baptiste a dit, pour une seule ronde, à quoi le but. Puis, ben les matchs à le retour, c'est la recette pour moi. Là. Juste à se rappeler les séries Toronto-Montréal aller-retour 2015-2016. C'est tu veux quoi de plus? C'est ça qu'on veut. Là. C'est des rivalités comme ça qui se créent grâce à des matchs aller-retour. Surtout lorsque c'est des géographiquement des équipes proches. Donc, bref, ça fait le tour pour ce qui est du nouveau format. Vos favoris en MLS, ça ressemble à quoi? Moi, LAFC, of course, toujours. Sinon, Cincinnati, premier au classement. Saint-Louis, on terminé premier de l'Ouest, mais j'y crois plus ou moins. Puis, j'ai Columbus aussi, parce que Columbus, je pense que Nancy fait du très bon travail. Je lui souhaite, en fait, d'avoir du succès, même Nancy, avec ce qu'il a fait à Montréal. Donc, bref, moi, ça ressemble à ça. Columbus, LAFC, puis peut-être Cincinnati, mais même là, je ne suis pas sûr. Philadelphie aussi, à ne pas oublier. Ouais. Toi, mettons, Hans, ça ressemble à quoi? Qui tu penses qui pourrait gagner cet MLS Cup?
Moi, c'est un peu comme toi. Là, je sais pas, on a les mêmes avis, mais LAFC, dû à l'expérience des dernières années. Donc, je les vois aller. Après, Cincinnati aussi, ça se peut. Ils ont connu une très, très bonne saison, mais est-ce que leur parcours va être pareil en série? Puis après, moi, je pense qu'il va y avoir quelques surprises, mais LAFC, d'après moi. Il peut aller faire un bon coup de chemin là, en série. Ouais,
ouais, Vela, Denis Bouanga, qui est très, très bonne saison. Ouais, un très bon choix. Puis toi, Baptiste?
Moi, je vois l'Est, une équipe de l'Est gagner, parce que je trouve, quand je regarde les équipes de l'Est, je ne sais pas si c'est parce qu'on suit plus le CF Montréal puis les équipes qu'ils affrontent, mais j'ai l'impression que le niveau est vraiment plus relevé. Puis comme
en termes de points, l'Est a été bien meilleur. Là.
Ouais. Puis comme tu as dit, Saint-Louis, moi personnellement, c'est eux que j'aimerais qu'ils gagnent. J'ai mon ami Nico Gioacchini qui joue là-bas. Puis j'aimerais qu'il l'emporte, mais je pense peut-être pas que ça va arriver cette année. Je ne suis pas convaincu, comme tu as dit, de leur côté. Mais je pense que l'équipe qui peut le remporter, c'est Columbus ou Orlando City. Je les vois bien parce que défensivement, c'est très, très, très bon. Donc, Orlando City, je pense qu'ils ont toutes les armes. Les cases sont toutes cochées pour aller jusqu'au bout de la MLS cette saison.
Ouais. Columbus, ce qui va être difficile, c'est qu'on a Atlanta dès le premier tour. Là. Je ne suis pas certain qu'on peut passer à Atlanta, mais si on le fait, je pense qu'on peut se rendre très loin du côté de Columbus. D'où?
Écoute, je suis pas mal du même avis que Baptiste. Je trouve que c'est. Puis encore une fois, il y a peut-être raison là, sur le fait que c'est peut-être parce qu'on suit plus l'association de l'Est, mais moi je trouvais que l'association de l'Est est plus relevée. Puis moi, écoute, Cincinnati, j'y crois pas tellement. T'sais, on a vu Cincinnati jouer à Montréal pas plus tard qu'il y a 3 semaines, 1 mois. Là, puis t'sais, on a vu qu'ils jouaient à l'extérieur. Je sais pas si c'est parce que le match n'était pas important pour eux, mais t'sais, par moment, je suis comme. Ça peut arriver que le Cincinnati ont des moments de flottement puis qu'ils ne soient pas 100% concentrés dans les matchs. Donc déjà là, je ne suis pas très emballé par rapport à Cincinnati. Puis écoute, heureusement, ils sont premiers dans la Ligue. Là, parce que pour vrai, s'ils n'étaient pas premiers dans la Ligue, pour moi, c'est sûr que Cincinnati partirait plus tôt que ça, surtout avec des matchs extérieurs. Mais bref, mais pour finir là-dessus, moi aussi, je suis du même avis qu'Orlando City, surtout défensivement, je trouve que c'est une belle équipe. Donc, moi, je pense que c'est soit Orlando City dans l'Est ou, comme vous l'avez dit, le LAFC qui pourrait être favori dans l'association de l'Ouest, malgré que Saint-Louis, ce serait une belle histoire, par contre.
Oui, puis LAFC devront peut-être battre Seattle sur leur parcours, là. Puis Seattle, on le sait, là, toujours à faire attention, même si ils s'en viennent un peu vieux, là, leur noyau, là, ça fait longtemps qu'il est là, l'Odero, entre autres. Mais c'est ça. Puis Philadelphie, moi, je voulais le mentionner aussi parce que c'est une équipe qui a tellement de succès dans les dernières années qui s'est fait battre en finale par LFC l'an dernier. Peut-être qu'ils ont leur mot à dire dans cette après-saison-là. Puis ce que j'espère surtout, c'est une finale aussi épique que l'an dernier. Là. C'était absolument fou là, ce qui s'est passé l'an dernier. Fait que, on s'espère ça dans quelques semaines. Prochain sujet, Christine Sinclair qui prend sa retraite, qui accroche les crampons. Je crois que c'est 190 buts en 327 sélections. Si je ne me trompe pas aussi, c'est la meilleure buteuse de l'histoire en sélection tout court, là, parmi toutes les sélections. Ce qui est un accomplissement énorme, là, honnêtement, là, c'est fou. Tu sais, Hans, perspective de joueur, c'est intéressant de ce côté-là. C'est quoi la place de Sinclair dans l'histoire du soccer, du football?
Ben, moi, tu sais, justement, au-delà de la joueuse qu'elle est, je pense qu'elle a marqué, je dirais, le Canada, peut-être voir à l'international aussi au niveau féminin, parce que oui. C'est une modèle pour la jeunesse. Si on demande à des filles qui jouent, qui t'a inspiré à jouer au soccer, qui t'a poussé à continuer à croire en tes rêves, tes objectifs, ben c'est souvent Christine Sinclair qui va sortir, du moins au Canada. Elle était la joueuse qu'elle est fait, ou même moi j'ai regardé, je la trouvais exceptionnelle. Elle marque tout le temps, une bonne attaquante. Qu'elle prend sa retraite, c'est un peu bizarre parce qu'on a grandi avec elle, donc on croyait qu'elle allait être jouer jusqu'à sa mort, mais non. Toute bonne chose.
40 ans quand même.
Ouais, non, c'est ça. Toute bonne chose à une fin. Mais sinon, une très, très grande athlète, une énorme buteuse. Elle a battu plusieurs records. C'est cinq Coupes du Monde, médaille d'or olympique, deux fois médaille de bronze. Le palmarès de Christine Sinclair, malgré qu'elle n'a pas joué en Europe, est quand même assez rempli. Je trouve que, bon, elle doit être faire sa carrière. Je lui souhaite tout le meilleur, là, mais très très bonne joueuse puis très bonne personne avant tout aussi. Là.
Baptiste?
Je pense que Christine Sinclair, on le sait, pour le moment, c'est probablement la plus grande. C'est la plus grande joueuse canadienne, autant gars que fille, celle qui a mis le Canada un peu sur la map au niveau du soccer, surtout le soccer féminin. Le Canada est devenu vraiment une puissance mondiale grâce à elle. Lorsque John Herdman est arrivé en 2011, après le fiasco là, de la Coupe du Monde 2011, il a décidé de mettre Sinclair au centre des projets, puis de bâtir l'équipe autour d'elle, puis ça a vraiment redonné une image positive au Canada. On l'a vu dès 2012 avec les Jeux olympiques, puis je pense que c'est depuis ce moment-là, Sinclair, elle a vraiment, c'est vraiment devenu une icône du soccer à l'international, là, pas juste au Canada, mais vraiment à l'international. Puis, tu sais, Sinclair, au-delà des médailles des Jeux olympiques, elle a encore le record aujourd'hui en NCAA du nombre de buts en une saison. Je pense en 2005, elle a marqué 39 buts en 25 matchs avec 10 passes décisives. Donc ça, ça fait plus de 15 ans de ça, 18 ans aujourd'hui. Puis elle a encore le record. Puis je pense que ce n'est pas un record qui risque d'être battu de sitôt. Donc, c'est une joueuse... au Canada, aux États-Unis, peu importe où elle est passée, elle a eu un impact. Je trouve ça juste dommage qu'elle n'ait jamais eu le palmarès qu'elle aurait voulu en Coupe du Monde. Puis sa Coupe du Monde se termine, sa dernière se termine sur une note plutôt négative, mais je pense qu'elle peut pas, elle peut pas ne pas être fière de sa carrière.
Très négative, on va dire.
Mais quand on regarde l'ensemble, c'est très positif la carrière de Christine Sinclair. Puis sans elle, le Canada, je pense pas qu'il aurait la même visibilité du monde entier actuellement.
Tout à fait. Comme on se disait, hors ronde, un monument. Là, puis Davies là, n'arrive pas à s'achever encore, là, je pense. Dou, t'avais-tu autre chose à dire sur Mme Sinclair?
Ben écoute, c'est une grande athlète canadienne. Hein? C'est pas compliqué. C'est, comme les gars l'ont mentionné, c'est une fille qui a su élever son sport. Dans un pays où que le soccer, écoute, n'était pas le sport le plus populaire pendant un méchant bout, puis quand même, grâce à son talent, surtout, elle a été capable de redonner une belle image au soccer canadien. Puis écoute, quand même, il ne faut pas l'oublier, là, c'est quand même la meilleure, c'est quand même la meilleure buteuse tout pays confondu dans l'histoire du football féminin. C'est pas rien, elle a 190 buts. Là, c'est quand même assez incroyable. Écoute, ces statistiques sont quand même folles, il faut le dire. Là. Par contre, comme Baptiste l'a mentionné, c'est dommage comment sa carrière ça peut terminer. On le sait qu'elle a 40 ans, mais moi, je pensais qu'elle aurait pris sa retraite après les Jeux 2024 à Paris l'année prochaine. Moi, je pense que ça aurait été là, que ça aurait été parfait pour elle. Mais malheureusement, elle a décidé de prendre sa retraite un an après la Coupe du Monde. Pas un an après la Coupe du Monde, mais quelques mois après la Coupe du Monde. Puis comment ça s'est... Puis surtout de la manière que ça s'est terminé, je trouve ça un peu dommage pour la carrière de Mme Sinclair qui est la meilleure joueuse de soccer de l'histoire du Canada puis une des plus grandes joueuses de soccer tout pays confondu. Par contre, ce qui est assez particulier, c'est qu'elle n'a jamais gagné le Ballon d'Or. T'sais, Ballon d'Or, c'est récent. Puis t'sais, le Ballon d'Or depuis 2018 ou meilleure joueuse de la FIFA dans les années avant. T'sais, pendant longtemps, ça a été Martha qui en plus, elle a pris sa retraite aussi tout récemment, là. Qui a gagné de nombreux titres de meilleure joueuse de la FIFA. C'est quand même assez particulier, malgré qu'elle a le record du plus grand nombre de buts dans l'histoire de la FIFA. Puis en plus, c'est 24 ans de carrière là, avec l'équipe canadienne. Elle a commencé à jouer pour l'équipe première à 16 ans, puis elle a pris sa retraite à 40 ans. C'est 24 ans. Là. C'est quasiment un quart de siècle. C'est fou comme... comme la longévité de Christine Sinclair qui, même en fin de carrière, est encore capable de jouer un haut niveau.
Ouais, puis de marquer des buts. Puis 190 buts, là, je me suis amusé à faire une comparaison. Là. C'est 63 de plus que Ronaldo avec le Portugal. Fait que, quand même, hein? Quand même. C'est quelque chose. Puis aussi, je voulais juste dire que sa carrière n'est pas tout à fait finie parce qu'il lui reste... des matchs internationaux à jouer, dont un au Stade Saputo contre le Brésil dans quelques jours. Là. Puis sinon, je crois aussi qu'elle va faire encore quelques matchs de saison avec son club. Mais pour le Ballon d'Or, je pense que, comme Hans l'avait dit, c'est surtout parce qu'elle n'a jamais joué en Europe, c'est probablement ça, qui ne l'a pas aidé. Si on bascule vers l'Europe, justement, là, niveau Premier League, disons. Manchester City a gagné. Arsenal, nul contre Chelsea. Liverpool a gagné le derby de la Mercy contre Everton. Et Tottenham joue à 3h en ce moment. Puis Tottenham pourrait prendre la tête de la Premier League avec une victoire. Ça, c'est assez fou, je pense. Je ne m'attendais pas à ça en début de saison. Un mot sur la Premier League. Man U qui a gagné aussi en fin de semaine. Newcastle 4-0 contre Crystal Palace. Tiens, Hans, qu'est-ce que tu penses de la Premier League jusqu'à date?
Ben, on a eu des très bons matchs au retour de la trêve internationale. On n'a pas été. Ça n'a pas été des matchs ennuyeux, disons. Beaucoup de gros matchs. Liverpool, Everton, ça s'est bien joué. Malgré un carton rouge tôt de chez Everton, mais beau résultat de Liverpool. Après, Chelsea-Arsenal, c'était plaisant à regarder. Un bon duel, malgré que Chelsea a mal géré la fin de match. Brighton, pareil. On a eu des bons matchs, pas juste aussi en Angleterre, mais en Espagne aussi également. Séville qui fait match nul avec le Real Madrid. Barça, une belle victoire avec un jeune qui rentre après 30 secondes, il marque son premier but après première. Donc non, on a eu des bons matchs en Europe. Il y a beaucoup de choses à discuter. Alors, on pourra passer à ça après, mais je vais laisser là. Baptiste ou Lou pour continuer.
Yes, vas-y Baptiste.
Ouais, ben, en première ligue, moi, j'ai hâte de voir, là. Je sais que le match de Tottenham, il commence juste maintenant, mais, moi, la première ligue, j'ai un regard très, très objectif dessus, puisque c'est pas ma ligue principale. Je suis plus un gars de Ligue 1. La première ligue, je regarde vraiment, même si j'aime Arsenal, beaucoup Arsenal et Newcastle, c'est dur à voir selon un fan d'Arsenal, mais je trouve que Tottenham, c'est vraiment intéressant ce qu'ils sont en train de faire. Angie Postecoglou, il amène vraiment quelque chose de positif, juste par sa manière d'agir sur le terrain, aux entraînements, en conférence de presse, tout ça, c'est bien. Puis sur le terrain, Tottenham, c'est vraiment intéressant. On pensait qu'après la perte d'Harry Kane, ça allait être compliqué, mais finalement, ils sont là. Puis Manchester United, c'est bien pour eux qu'ils arrivent à enchaîner une deuxième victoire de suite. Je pense qu'en ce moment, l'homme en forme, c'est Scott McTominay. Trois buts en deux matchs. Puis même avec l'Écosse, il a fait des bonnes performances. Donc, content pour Man U de les revoir un peu à un niveau un peu plus à leur image, même si ce n'est pas contre des très grosses équipes qu'ils ont eu leur victoire.
C'est ça. C'est une victoire de 2-1 très shaky là, contre Sheffield. Là. Donc, je ne suis pas vraiment rassuré par Man U personnellement. D'où, y a-t-il une confrontation ou plusieurs qui t'ont intéressé?
Ben écoute, moi, avant de parler des affrontements, c'est surtout le fait que ça fait du bien d'avoir une parité en Première Ligue. On le sait depuis déjà trois saisons, même plus, je crois. En tout cas, depuis 2020, Manchester City remporte assez aisément à la Première Ligue à chaque saison, ou presque à part une saison que je crois que c'était un peu plus serré avec Liverpool. Mais non, l'an passé, évidemment, avec Arsenal, qui a quand même été premier pendant 93% de la saison de Première Ligue l'an dernier.
Même en 2021, je pense que c'était 100 pour City puis 99 pour Liverpool.
Ouais, quelque chose comme ça. Mais l'année passée, c'était encore pire parce que Arsenal avait la première place pendant 93% de la saison, puis ils ont perdu dans le dernier mois la première place. Mais à part de ça, c'était vraiment genre juste une course entre deux équipes, entre Manchester City et Arsenal. Mais à part de ça, les autres ne sont pas là. Alors que cette saison, on se retrouve dans une belle course déjà avec Tottenham, Arsenal, Manchester City, Liverpool, Aston Villa qui se débrouille très bien.
Aston Villa est impressionnant, oui.
Depuis le début de la saison. Donc, c'est une bonne première ligue d'avoir le retour d'une certaine parité. Et ce, malgré que Chelsea et United ont eu beaucoup de misère à début de saison. Donc, on verra qu'est-ce qui se passe avec ces choses. Mais déjà, le fait qu'il y a une nouvelle parité en première ligue, ça fait extrêmement du bien pour la ligue. Parce que pour vrai, voir City gagner après année, là, c'est pour moi, je pense que c'est pas une belle image que tu offres à la première ligue anglaise, qui reste quand même la ligue la plus compétitive au monde. Là. Puis écoute, à part de ça, ben, c'est sûr que qu'est-ce qui a retenu mon attention, c'est le duel entre Chelsea et Arsenal. Surtout comment. Écoute, Chelsea s'est vraiment bien débrouillé. Puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en fin de record, mais.
L'erreur de
Robert Sanchez
offre le ballon à Declan Rice.
Puis même sur le but de, je pense que c'était Leandro Trossard, le but l'égalisation. Même là, c'était pas Robert Martinez n'a pas bien paru. Sanchez, qui n'a pas bien paru. Donc,
Il y a tout un centre de Saka, ceci dit.
Ouais, surtout là. Mais tu sais, ça a vraiment été un match fort intéressant. Puis moi, j'ai hâte pour la suite des choses parce que pour vrai, c'est ça, comme j'ai mentionné, il y a une parité qui est de retour en Première Ligue.
Mm-hmm. Ben moi, j'ai deux duels là, que je voulais parler un peu plus. Liverpool-Everton, Salah, deux buts dans ce match-là. Salah, dernièrement, est en grande forme. Puis j'ai vu une statistique passer, puis je crois qu'elle est véridique, là, c'est que Salah en 2023, et c'est lui qui a le plus de goal contribution, donc de contribution à des buts, passes décisives et buts en 2023 en Premier League. Donc, c'est quand même quelque chose. Le deuxième, savez-vous qui est le deuxième après Salah?
Qui?
Ollie Watkins.
Wow, intéressant.
Donc, très intéressant, ça. Donc, j'ai vu ça passer. Je pense que c'est vrai, mais bref. Peu importe. Sinon, il y a du côté de l'Italie, Naples, qui a fait une belle victoire avec Kvaratskhelia, qui a marqué deux buts en l'absence d'Osimhen. Donc, Naples qui ne va pas aussi bien que l'an dernier, mais quand même, c'était très intéressant de voir ça. Puis, Real Madrid de Séville également, Hans en a parlé, là, mais Ramos qui était de retour ancien club qui a failli marquer là, en fin de match avec une tête aussi. Là. Donc, bref, ça, c'était intéressant à surveiller, ce nul-là, assez surprenant aussi. Là-dessus, les gars, je pense que le tour d'horizon est pas pire, puis on a d'autres choses à parler. Entre autres, le Ballon d'Or, la cérémonie du Ballon d'Or est dans quelques jours, le 30 octobre, décernée par France Football. Puis on s'en parlait un peu hors ronde, Dou et Baptiste, qu'il y avait eu des leaks et que ça avait sorti comme quoi Messi serait le gagnant. Rien n'est confirmé, rien n'est sûr encore. Mais ton opinion, toi, Hans. On peut commencer par Hans sur qui devrait gagner ce prestigieux prix.
Ouais, qui devrait le gagner? Les avis sont quand même assez mitigés, mais on sait que ça se joue en deux candidats, Haaland et Messi. Moi, récemment, j'ai écouté un podcast en anglais, puis les gars disaient, si on cachait les noms des deux personnes, on ne savait pas de qui on parlait. Tu regardes la fiche de Haaland puis celle de Messi, objectivement, tu la donnes à qui? C'est ça. Moi, je le donnerai à Messi à cause du monde, puis tout ce qu'il a fait. Il a été tellement décisif. Il a joué toutes les minutes de son équipe. Mais après, il ne faut pas oublier qu'Haaland a connu une énorme saison pour sa première année en Premier League. 36 buts sur 34 matchs, je pense.
Ah, c'est
énorme quand on y pense. Le seul hic, je trouve, c'est qu'il n'a pas été aussi décisif que ce qu'on pensait dans les phases déterminantes de la Champions League. Quart de finale, demi-finale, finale. On l'a peu vu.
Avec la Norvège aussi, là, il a pas été. Ben, la Norvège n'a pas pu participer à la Coupe du Monde. Ouais, c'est peut-être pas de sa faute.
Que la nation ne l'aide pas non plus. Mais Messi, ouais. C'est en Ligue 1, on peut dire que c'est plus facile, mais au contraire, ça ne l'est pas. Mais ça, il n'a pas été aussi tranchant que Haaland. Donc, la balance, elle penche un peu plus vers Messi de mon côté parce que. Qu'est-ce qu'il a fait à son âge en Coupe du Monde, dans des matchs compliqués, surtout qui sont leur premier match, ils le perdent. Revenir.
Contre l'Arabie Saoudite, en plus.
Exactement. Revenir aussi fort avec cette confiance-là, avec une belle nation, l'Argentine, il faut le dire, ils avaient une belle équipe. Selon moi, Messi devrait l'emporter, surtout que ce serait un beau chapitre pour clore ça, là, son 8e ballon d'or, probablement son dernier. Puis. Haaland aura d'autres chances de gagner aussi. Là. Mais c'est sûr que, après moi, Messi va le gagner, vu les leaks aussi. Surtout, c'est à ce temps-ci de l'année que ça commence à sortir, là, les résultats. Donc, je pense que Messi devrait l'emporter. Là.
Baptiste, ton choix?
Mais moi, en ce moment, c'est vraiment balancé entre Messi et Haaland. Je pense que, moi aussi, je dirais que je penche un petit peu plus du côté de Messi, parce que l'argument des gens pour dire qu'ils disent qu'Haaland ne mérite plus, c'est ses buts en première ligue, puis que Messi, à part la Coupe du Monde, n'a pas été décisif, mais c'est faux. Quand tu regardes ses statistiques, il y a plus de 40 buts et passes décisives dans la saison.
Mais c'est lui qui a les meilleures statistiques en 2022-2023, je pense. Hein?
Il y a les meilleures statistiques en 2022-2023.
En haut d'Haaland, en haut d'Mbappé. Là, donc,
C'est ça. Même s'il a moins marqué de buts que d'autres années où il l'a fait, il a quand même été très décisif dans une année où Paris, ça a été compliqué. Donc, moi, je comprends pas pourquoi on certaines personnes avantagent autant Erling Haaland, même s'il fait une saison très bonne. Je pense que Messi va le remporter. Je pense que les leagues sont bons. Donc, pour moi, il n'y aura pas de différence. Mais cette année, je trouve que ça a été vraiment plus difficile de comparer entre les deux-là, entre ces deux-là que d'autres années. C'est l'an dernier, Benzema, il n'y avait pas photo. Genre, c'était Benzema, on le savait depuis mai, quand il a gagné la Ligue des champions. Il y a d'autres années où ça a été vraiment plus simple, mais cette année, c'est très serré entre les deux. Donc, je pense que Messi va être premier, Haaland deuxième et Mbappé va être troisième.
D'où?
Ben, en fait, la raison pourquoi ça a été un peu plus serré entre Messi puis Haaland. Puis écoute, Baptiste, je vais un peu répondre à ta question de pourquoi on a tendance à comme négliger les statistiques de Messi. C'est parce que Messi et Cristiano Ronaldo ont tellement mis... On a tellement mis les attentes hautes que tout le monde s'attend à ce que Messi et Ronaldo marquent 50 buts à chaque saison. Puis ça a été de même pendant 10 années consécutives. Puis ça, c'est très rare dans le monde du football que vous voyez ça. Même les plus grands joueurs de l'histoire du football, leur apogée d'habitude, c'est entre 3 et 5 ans là, d'habitude. Là. Je parle des joueurs comme R9, Ronaldinho, même on peut penser au Pelé, Maradona et... Johan Cruyff, même Zinedine Zidane, ou que leur apogée, c'est rare. Il n'y a aucun de ces joueurs-là qui a eu un apogée de 10 ans, alors que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont tellement mis la barre haute que tout le monde s'attend à ce que Messi ou Cristiano Ronaldo, dès qu'ils sont finalistes au Ballon d'Or, ben, que les deux aient une saison de comme 50 buts chacun, que Messi délivre genre plus de 20 passes décisives dans la saison. C'est des statistiques qui sont folles. Ce qui fait que au final, quand Lionel Messi a une saison un petit peu plus basse aux statistiques qu'il a déjà eues auparavant, ben, on pense qu'il était moins bon, alors que avoir des statistiques comme ça à 35-36 ans, c'est fou. Comme vous l'avez mentionné, c'est lui qui a le meilleur, qui a le meilleur ratio but passe pour la saison 2022-2023. Donc, c'est à peu près ça qui est pour cette question-là. Moi, je pense aussi que Lionel Messi va gagner le Ballon d'Or parce que, comme Hans l'a mentionné, Erling Haaland, il y a eu des matchs où, surtout dans les grands moments, on l'a pas vu. Puis malheureusement, quand il s'agit du Ballon d'Or, je te l'ai mentionné à plusieurs reprises, puis je m'en sais la même chose aussi pour Thomas, qui est un de nos panélistes ici dans le podcast, que pour le Ballon d'Or, les moments forts, les moments clés d'une saison font toute la différence. Malheureusement, pour Erling Haaland, oui, il a eu des statistiques, oui, il a marqué beaucoup de buts, mais dans la double confrontation en demi-finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, on ne l'a pas vu. En finale de la Ligue des Champions, on ne l'a pas vu. Avec la Norvège, oui, c'était difficile, mais on ne l'a pas vu non plus. Même ce début de saison, dans les gros matchs contre Arsenal, contre Liverpool, on ne le voit pas. Donc, est-ce que c'est plus Haaland qui traîne Manchester City ou c'est juste le fait que.
Mais contre Liverpool, Haaland... Mais
je parle de la saison dernière.
Contre Liverpool,
la saison dernière.
Ok, c'est
la saison dernière.
Ouais, ouais.
Mais c'est ça. Donc, est-ce que finalement, c'est vraiment Haaland qui a vraiment traîné Manchester City ou il a juste bénéficié de jouer dans une équipe absolument extraordinaire comme celle de Manchester City qui a eu un triplé la saison dernière? Donc, c'est vraiment pour cette raison-là que je pense que Lionel Messi va gagner le Ballon d'Or. Oui, il n'a pas eu une saison facile avec le Paris Saint-Germain. Oui, il n'a pas gagné avec des champions avec le PSG. Mais au moins, sa Coupe du Monde fait que comme il y a un cran au-dessus de tout le monde, selon moi. Là. Puis, écoute, d'après moi, il va y avoir un retour du débat de est-ce que, genre, on priorise la Coupe du Monde par rapport à toute une saison ou, genre, on prend le meilleur joueur sur la globalité de la saison? Parce qu'en ce moment, c'est vraiment là le débat entre ouais, est-ce que Messi mérite un Ballon d'Or parce qu'il était bon dans la meilleure compétition de la saison ou on prend celui qui a été le plus constant sur sur l'année complète? Donc, c'est à peu près ça pour. Moi, je pense que Messi va gagner le Ballon d'Or.
Mais ton choix serait.
Messi.
Ton choix serait Messi. OK, parfait. Donc, c'est ça, parce que moi, je trouve qu'on voit beaucoup de. Avec la base partisane du PSG, notamment, qui est très toxique à l'endroit de Messi. Puis je pense qu'on reçoit beaucoup cette information-là qui nous fait penser que Messi n'a pas été vraiment bon à Paris. Mais comme Baptiste a dit, il a les meilleures statistiques sur l'ensemble de la saison 2022-23. Les statistiques, ce n'est pas tout. Je pense que Messi a été loin de faire une saison comme il faisait à Barcelone, mais quand même, il n'a pas été mauvais, certainement pas. Puis, pour ce qui est d'Haaland, je pense que quand même, moi aussi, je suis extrêmement partagé, là, parce que du côté d'Haaland, je pense que le record qu'il a fait, il ne tirait même pas les pénalties, hein, si je ne me trompe pas, c'était De Bruyne qui les tirait du côté. Ah ben.
Non, il a marqué quelques pénalties.
Il ne les tirait pas tous.
Bref, fait que tu sais, il aurait pu en ajouter encore plus s'il avait tiré tous les pénalties. Mahrez en tirait aussi, là, je me rappelle. Ouais. Donc, tu sais, c'est vraiment impressionnant ce que le record que Haaland a battu. Il y a plusieurs grands joueurs, grands attaquants qui sont passés par la Premier League, qui ne sont même pas passés proches de marquer autant de buts qu'il l'a fait, avec une régularité comme il l'a fait. Encore là, la Coupe du Monde, c'est tellement un critère important puis gros pour tous ceux qui votent au Ballon d'Or, que je pense aussi que Messi va le gagner. Mais mon avis personnel, je suis très partagé. Je trouve que Messi l'a gagné certaines années qu'il n'aurait pas dû le gagner. Pour cette raison, je trouve que cette année, on devrait le donner à Haaland parce que Messi en a déjà beaucoup puis certains qui ne l'auraient pas nécessairement mérité. Donc, pour cette raison, je pense que je suis un peu plus du côté d'Haaland. Mais c'est vraiment pas un vol si Messi le gagne, contrairement à mettons, 2021, là, où est-ce que Lewandowski aurait clairement dû gagner pour moi. Bref, c'est ce qui... Ah, aussi, ce que je veux dire, c'est que Mbappé, on ne le prend pas assez en considération, je crois. C'est un... je suis vraiment pas un fan de Kylian Mbappé, mais si on y pense bien, là, Randal Kolo Muani met le but contre Emiliano Martinez et Mbappé est Ballon d'Or, probablement. Ça aurait pris... seulement ce but-là, puis Mbappé était Ballon d'Or. Donc, cet instant-là fait en sorte que Kylian Mbappé n'est pas Ballon d'Or, puis je pense qu'il devrait avoir plus de considération parce qu'on parle seulement de Haaland et Messi. Oui, je pense qu'Mbappé va finir troisième, mais Mbappé a quand même connu une grande saison. Mais comme André l'a dit, Haaland et Mbappé vont en gagner dans le futur des Ballons d'Or. Donc, si Messi gagne...
Mbappé a une grande Coupe du Monde. Il n'y a pas une grande saison. Il y a une grande Coupe du Monde.
Oui, c'est ça. Il y a une excellente Coupe du Monde.
Ouais. C'est ça. C'est différent. C'est juste la nuance que je vais l'amener.
Ben, il a quand même fini, fini meilleur buteur du championnat de Ligue 1, une fois. Donc, c'est sûr qu'on est habitué de voir Mbappé au sommet.
Meilleur buteur de la Coupe du Monde.
Comme Oli a dit, moi, je pense que c'est juste à la Coupe du Monde. Si Mbappé gagne la Coupe du Monde avec la France, Mbappé le Ballon d'Or.
Colomani, c'est Ballon d'Or.
Ouais.
Voilà.
Ou l'arbitre siffle un troisième pénalty sur la faute sur Colomani, encore une fois. Puis Mbappé, il a peut-être son quadruplé. Puis il rentre encore plus dans la légende. Donc,
la faute sur Colomani, attends.
La 80e, je pense que c'était encore 2-1 ou non. C'était peut-être même déjà 2-0, mais il y a un pénalty non sifflé. Je pense que c'est Otamendi qui fait une faute sur Colomani.
Il y a un
carton jaune pour simulation, mais on voit le replay, puis il lui marche sur le pied. Donc, en tant que Français,
je me rappelle,
c'est pas objectif, mais...
Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais je me rappelle vaguement, là, mais la marge est tellement, tellement mince entre est-ce que c'est une simulation ou non, parce que oui, il a peut-être touché le pied, mais oui, Colomoigny en a certainement rajouté, donc c'est très mince comme marge. Anne, tu allais dire quelque chose?
Ben oui, mais comme Baptiste l'a dit, en même temps, tu sais, c'est une finale de Coupe du Monde, je pense que l'arbitre ne veut pas trop avoir d'influence sur le résultat ou l'impact du jeu. Quand on y repense, il est allé à la VAR, d'après moi, il siffle penalty. Heureusement, il n'est pas allé, donc Messi l'a eu. Mais c'est ça, on parle vraiment de concours de circonstances. On parlait tantôt de si Martinez ne faisait pas l'arrêt sur Colomoigny. On peut dire la même chose de l'Inter de Milan avec le City. Si Lukaku ne bloquait pas le titre.
Lautaro Martinez était ballon d'or, assuré.
regardez, on peut aller plus loin que ça. Si Benzema jouait la finale de la Coupe du Monde, est-ce que l'équipe de France serait championne du monde? Parce que c'était Benzema en avant à la place de Randall Colomoigny devant lui, Martinez. Benzema en 2022 en plus.
Aurait été remplacé à ce moment-là du match, cependant. Là. On t'a rendu, 118 minutes.
Prolongation, c'est vrai.
Bref, on est beaucoup trop loin dans l'hypothétique. Mais ouais, tu voulais-tu finir, Hans?
Non, c'est tout ce qu'il avait à dire.
Parfait. Oui, Baptiste.
Vous poser une question, personnellement, pour... on a parlé du Ballon d'Or, mais Trophée Yachine, moi, j'ai été...
Oui.
J'ai aimé les candidats qui ont été nominés. J'ai mon favori, mais je trouve qu'il y a vraiment une grosse... les gardiens sont proches cette année. Il n'y a pas une domination comme Courtois l'an dernier. Il y a beaucoup de gardiens qui peuvent le gagner, même si personnellement, j'ai mon favori. Donc, je veux savoir c'est quoi vos favoris, vous, pour le Trophée Yachine.
Ben, lance donc le bal. Quel est le tien?
Ben, moi, c'est le Montréalais Yacine Bounou.
Yacine Bounou.
Je veux dire, sa Coupe du Monde est incroyable. Sans lui, le Maroc ne se rend clairement pas, selon moi, au même stade de la compétition, même s'ils ont eu d'autres très bons joueurs. Je pense que Yacine Bounou, c'est la principale attraction de la Coupe du Monde de leur côté. Puis même avec Séville, même si Séville n'a pas une saison facile en Liga, il n'est pas le fautif sur leurs résultats. Puis il gagne
quand même la
Ligue Europa. Séville, c'est une équipe habituelle à la Ligue Europa, elle a gagné. Mais encore une fois, Bounou est acteur majeur de la Coupe du Monde du Maroc et de la Ligue Europa du FC Séville. Donc c'est des trucs que je pense qu'il passe au-dessus des autres gardiens sur l'ensemble de l'année.
Ben, écoutez, je suis du même avis que Baptiste. Moi, Yacine Bounou était pour moi le meilleur gardien de but de la Coupe du Monde. Oui, je sens que ça va être Emiliano Martinez qui va remporter le titre. Mais pour moi, Emiliano Martinez, si tu lui retires les pénalties, je m'excuse, mais c'est pas le meilleur gardien du tout. Là. Genre, pas du tout. Là. Puis, tu sais, il y a d'autres gardiens de but aussi qui, pour moi, sont pas exceptionnels. Bon, Ali, tu sais, moi, je suis pas le plus grand fan d'Ederson. Moi, Ederson, pour moi, il n'y a pas rapport dans cet essai non plus. Mais écoute, écoute, qu'est-ce qu'avec la saison de Manchester City,
se retrouve dans
cette liste-là. Là, on le voit en plus en ce moment avec le Brésil. Hein, depuis que Ederson est préféré à Alisson Becker, ben, par exemple, le Brésil perd beaucoup de matchs. Tout ça comme ça. Mais bref, moi, je suis du même avis que Baptiste. Yacine Bounou a une saison absolument exceptionnelle non seulement avec le Maroc, mais a été bon avec une équipe de CV où c'était compliqué. Et c'était vraiment compliqué. Ils ont été mauvais en Ligue 1 la saison dernière et ils ont quand même gagné Ligue Europa. Qu'est-ce qui, pour moi, résume vraiment la saison que Yacine Bounou a eue, non seulement avec le Maroc, mais également aussi avec CV quand il était là avant de partir en Arabie Saoudite.
Hans, tu veux-tu te prononcer ou j'y vais en premier?
Ouais, je peux.
Vas-y.
Il y a trois candidats qui sont dans ma tête qui viennent de même. C'est sûr qu'Emiliano Martinez, en raison de la Coupe du Monde, c'est sûr qu'il va être dans les favoris, peut-être même le gagnant. D'où tu disais, sans les pénaltys, il ne gagnerait pas. C'est vrai, mais ça fait partie du travail d'un gardien d'arrêter des pénaltys. Donc, il ne faut pas lui enlever ce crédit-là non plus.
C'est une grosse partie même du travail.
Il ne faut pas lui enlever ce crédit-là parce que sans lui, l'Argentine ne gagne pas la Coupe du Monde. Après, Ederson, c'est vrai que ce n'est pas le gardien le plus flamboyant, pas le meilleur gardien non plus. Mais dans le jeu de City, pour moi, il s'installe parfaitement. Balle au pied est très, très bon. Sa relance au pied est très, très bonne aussi. Donc, je sais que ce n'est pas des critères énormes pour dicter genre, qui va gagner ou quoi que ce soit. Puis sinon, personnel, ce serait Ter Stegen parce que dans la saison, il a été majeur. Sans lui, c'est beaucoup de matchs nuls que le Barça ferait parce que l'année passée, ils ont eu de la misère à aller chercher des buts. Ça a souvent fini sur des scores de 1-0 ou des petits scores. Puis Ter Stegen les a permis de rester dans le match souvent, à plusieurs reprises. Je pense qu'il a même battu le record de blanchissage du Barça ou en Liga. Donc, ça serait un de mes favoris aussi pour le gagner, mais pour ne pas enlever le travail que Martinez a fait sur la totalité de la Coupe du Monde.
Sauf que Ter Stegen n'est pas nominé, me semble.
Non, c'est ça.
Mais oui,
c'est...
je crois qu'il
n'est pas nominé. Ouais, il est nominé, je crois.
Nominé?
Ouais, je crois que oui.
Ah, ça se peut.
Ça serait un de mes
choix. Oh, il est nominé.
Ouais, c'est ça. Bref, moi, j'attendais que quelqu'un le nomme, Ter Stegen, parce que moi, Bounou, à cause de sa saison à CV, c'est ça qui me fait le recaler deuxième. Parce que moi, c'est Ter Stegen. Moi, je pense que ça a été le meilleur gardien de la dernière année. Ouais. Barça n'aurait jamais gagné la Liga sans lui, je pense. Et je regardais la plupart des faits saillants ou les matchs du Barça l'an dernier. Puis à chaque match, presque sans exception, il y avait un arrêt décisif de Ter Stegen. Donc, puis tu sais, il s'est démarqué sur l'ensemble d'une saison. Bounou était très bon sur une courte période en Coupe du Monde. Mais Ter Stegen, c'est sur l'ensemble de la Liga. Moi, je pense vraiment que Ter Stegen est le meilleur gardien de la dernière année. Je voulais faire aussi, Bounou est deuxième, il faut lui mentionner. Je voulais aussi deux mentions honorables à Mike Maignan, premièrement, qui a été exceptionnel, lui aussi, avec l'AC Milan l'an dernier et avec l'équipe de France en remplacement de Loris. Ben, pas à Coupe du Monde, mais après. Puis, et aussi Dominik Livakovic pour la Croatie durant la Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce match-là, Croatie-Brésil. Livakovic a été sensationnel. Le Brésil aurait complètement passé si ce n'était pas de ses arrêts. Donc, Livakovic et Bruno ont été les meilleurs gardiens de cette Coupe du Monde-là pour moi. Puis Martinez, a été très bon, mais il n'est pas dans mes plus hauts favoris tant qu'à moi. Ouais, d'où?
Ben moi, écoute, je voulais parler de... Pour moi, la plus grande surprise de ce classement-là, là, c'est Samba. Pour moi, Samba, avec l'RC Lens, a été exceptionnel. Il est sorti de nulle part. Là. Quand même, l'RC Lens qui est amené deuxième de Ligue 1 la saison dernière, quand même un point seulement du PSG Germain. Écoute, quand même la meilleure défense de la Ligue 1 la saison dernière. Seulement 29 buts accordés avec l'RC Lens. Pour moi, je veux juste lui faire une mention honorable parce qu'il est arrivé. Il est quand même arrivé de nulle part, puis il a 29 ans là, quand même. Là. Donc, ça vient encore prouver que ça prend plus de temps de développer un excellent gardien de but. Donc, moi je trouve que Samba, cette saison, avec l'RC Lens, était exceptionnel. Il gagnera clairement pas le trophée, mais pour moi, c'est la plus grande surprise dans ce classement-là cette saison, surtout avec la saison exceptionnelle que l'RC Lens a eu l'an passé. Pour moi, il mérite amplement sa place parmi les finalistes.
Puis ce qui est surprenant aussi, le pas du classement, parce que Onana mérite sa place. Il était excellent avec l'Inter Milan. C'est de voir à quel point Onana n'a plus le niveau qu'il avait l'an dernier avec Manu. Bon, mais ouais, maintenant qu'on a parlé du trophée Yashin, très bon point apporté par Baptiste, parce qu'on voit qu'il n'y a vraiment pas de consensus à ce niveau-là. Là. Bounou, Ter Stegen, Martinez, bref. Le trophée du plus jeune joueur, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a Moussiala ou Bellingham. Là. Je ne sais pas s'il y a vraiment... Donc, ben, moi, c'est les deux options qui me viennent en tête rapidement, là, mais je ne sais pas si vous avez d'autres idées. Je pense que... Ouais, vas-y, Dou.
Je m'excuse, mais pour moi, c'est Bellingham, même pas proche. Hein. Genre, je suis désolé, mais non seulement il y a une saison exceptionnelle avec Dortmund, mais en ce moment, qu'est-ce qu'il y a avec le Real Madrid? C'est juste de la folie. Là.
Ouais, mais
c'est...
ça compte pas, ça. Faut pas oublier que ça
compte pas. Je sais, ça compte pas, mais déjà, même sa saison avec Dortmund, je sais pas s'il y a un joueur plus décisif au même âge que lui, avec son équipe, que lui l'année passée avec Dortmund, qui, faut se rappeler,
la Coupe du Monde
aussi avec l'Angleterre, qui a été excellent. Pour moi, c'est même pas proche. Je ne sais même pas pourquoi il y a un débat. C'est...
Mais Moussiala a été exceptionnel. Avec
non, Moussiala a été exceptionnel. Mais Moussiala joue quand même avec une équipe du Bayern de Munich, qui est une excellente équipe. Donc, c'est là qu'il peut... tu sais, quand tu te retrouves à jouer... ben, quand tu sais que tu as Joshua Kimmich et Leon Goretzka en arrière de toi, tu peux te permettre d'être un peu plus créatif offensivement. Puis, Bellingham n'avait pas ce luxe-là avec Dortmund. Puis, malgré ça, je crois qu'il a terminé le meilleur joueur de Bundesliga à son dernier, si je ne me trompe pas aussi. Donc, tu sais, il me semble que, tu sais, pour moi, la réponse, elle est claire, là. C'est Joe Bellingham, puis je pense que oui, Moussiala va terminer deuxième, mais pour moi, il n'y a pas de photo, là. Vraiment. Là.
Pour moi, il y a...
Est-ce qu'il y a Saka qui est nominé là-dedans?
Non, Saka...
Est-ce que Saka est nominé là-dedans?
Je pense qu'il est nominé Ballon d'Or, mais pas... pas trophée,
il n'est pas considéré comme pas. Jeune, genre?
Non. Mais okay. Moi, personnellement, il y a quatre joueurs qui ressortent. C'est Bellingham, Moussiala. Même moi, je rentre Kamavinga parce qu'il fait une bonne saison au Real. Puis sinon, un autre que je pense qu'il aurait gagné s'il était dans un autre championnat, c'est Xavi Simmons.
Ouais.
Il fait une saison vraiment, vraiment bonne au PSV. Même PSV, en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, là, ils sont 9 victoires en 9 matchs. Premier de Eredivisie.
Puis l'Ajax à Amsterdam est sur le bord de la relégation. Là.
Ouais, c'est même s'il joue plus dans ce championnat-là, mais pour moi, Xavi Simmons aurait été candidat très sérieux, mais je pense que comme il joue en Eredivisie, ça va peut-être jouer, ça va peut-être être un facteur. Puis je suis du même avec Dou que sinon Bellingham, je pense qu'il est quand même une coche au-dessus des autres. Là. Pour moi, Bellingham, il pourrait être dans le top 10 du Ballon d'Or sans problème déjà en ce moment. Donc, pour moi, dans les jeunes, il y a vraiment une coche au-dessus des autres.
Je suis assez d'accord, même si j'ai un faible pour Moussiala, mais je suis assez d'accord. Hans, pour terminer.
Bellingham, là, sans surprise, je pense qu'il a prouvé que ce n'est pas un joueur. Même si ça ne compte pas cette année avec le Real Madrid, mais il prouve qu'il a de la constance dans son jeu. Avec Dortmund, il a été déterminant, que ce soit défensivement ou offensivement, il crée le jeu. Il faisait relancer le jeu. À la Coupe du Monde, l'Angleterre, sans lui au milieu, ce n'est pas la même Angleterre. Je trouve que malgré son jeune âge, c'est le cœur d'une équipe, selon moi, un peu comme dans le style que Gavi peut apporter au Barça, même si au niveau talent, ce n'est pas la même chose. Mais je trouve que c'est des gars qui permettent à leur équipe de donner de la vie à leur équipe. Tu as toujours besoin d'un joueur comme ça. Donc Bellingham, sans surprise, devrait le gagner, malgré que Moussiala, c'est un joueur extraordinaire. Mais le fait que Bellingham a juste été sensationnel tout au long de la saison, là, il devrait l'emporter, là, selon moi.
Chris, ça bug dessus?
Oui, yes. Donc, oui. Quoi? Ouais, moi, ça a bugué un peu. Désolé.
OK.
Est-ce que vous m'avez vu bugger?
Ouais.
Allô?
Ouais, allô.
OK, bon. Allô. OK, mais là, ça va bien? Ça va bien?
Ouais.
Ok, je suis en retard un peu, bon, pas grave. Donc, on peut finir avec un petit segment prédiction. J'aime bien finir avec segment prédiction. Ligue des champions, Newcastle, Dortmund cette semaine et PSG Milan qui gagne ces deux rencontres. Moi, je vais y aller avec Newcastle qui est assez en feu ces derniers temps contre Dortmund. Puis PSG Milan, Mbappé a marqué en fin de semaine, donc pourquoi pas le PSG. D'où?
Attends, excuse-moi, j'étais un peu perturbé. Peux-tu répéter la question, s'il te plaît? Je disais autre chose. Je m'excuse.
Ben, Newcastle, qui gagne cette semaine en Ligue des champions? Newcastle, Dortmund, dans le duel de Newcastle-Dortmund et PSG-Milan, qui sont tes deux gagnants.
Moi, je vais y aller avec Newcastle encore et je sens un match nul entre le PSG et puis l'AC Milan.
Match nul, c'est une bonne idée, ça. Baptiste?
Moi, je pense que Dortmund sont décevants cette saison-là. Ils ont de la difficulté en fin de semaine. Victoire difficile contre Werder Bremen. Ouais. Puis Newcastle, au contraire. Surtout à St. James Park, on l'a vu contre Paris. Ça fait la différence. Le stade fait la différence. Donc, peut-être que ma réponse aurait été différente si c'était à Dortmund, mais là, comme c'est à St. James Park, ça va être Newcastle qui va gagner. Puis je pense que Milan sort d'une défaite ce week-end contre Turin à domicile, puis Paris gagne. Donc, je pense que le Parc des Princes va être en feu, puis ça va là aussi faire la différence. Parce que je pense qu'en Ligue des Champions, le stade, l'ambiance, est un gros acteur, un facteur important. Puis, donc, je pense que les deux équipes à domicile vont l'emporter cette semaine.
Yes, Hans?
Ouais, pareil, même chose. Newcastle revient de bons résultats, surtout de leur victoire dernièrement contre le PSG en Champions League, plus cette fin de semaine en Premier League. Donc, Newcastle devrait l'emporter contre Dortmund. Puis après, PSG, Milan, à domicile, c'est sûr que c'est un facteur important. Puis les grosses têtes comme Mbappé, je pense pas qu'ils ont oublié leur défaite dernièrement en Champions League contre Newcastle. Donc, ils ont quelque chose à prouver. Ils vont vouloir se rattraper, non seulement pour leurs fans, mais aussi pour Paris, quoi que ce soit. Et puis, c'est quand même un groupe qui est quand même assez chaud. Donc, perdre des points, c'est pas ce que tu veux vraiment dans ce groupe-là. Ça peut aller très vite. Donc, ils voudraient se qualifier pour les prochaines rondes. Donc, je pense que PSG devrait aller chercher la victoire contre Milan.
Bon, ben on s'entend presque tous là-dessus. C'est bien, c'est bien. Là-dessus, les gars, c'est ce qui conclut l'épisode 14 de Jason. Ah oui, d'où? Tu l'as dit?
Ouais, ben écoute, je vais parler rapidement du match du Newcastle PSG parce qu'on n'en a pas parlé, là, mais honnêtement, le PSG, là, genre, ils sont obligés d'avoir une excellente performance contre la similaire parce que pour vrai, leur contre-performance contre Newcastle, à Newcastle, c'était terrible à voir. Puis, je sais pas qu'est-ce qui était pire. Je sais pas qu'est-ce qui était pire entre les décisions tactiques de Luis Enrique, notamment avec sa formation un peu bizarre d'un 4-2-4 juste les gros joueurs du PSG qui n'ont pas été absents. Parce que, pour vrai, la formation du Paris Saint-Germain, là, te retrouver à seulement deux milieux de terrain avec Ugarte et surtout Warren Zaïre Emery, qui, quand même, seulement deux mieux contre pressing à 5 minutes de Newcastle, c'était juste terrible à voir du côté du PSG. Donc, je vais parler de ça parce que, pour vrai, le PSG est obligé de ressortir avec une excellente performance contre l'AC Milan cette semaine parce que sinon, je pense déjà que Luis Enrique va être un peu en danger. Je sais que je m'avance beaucoup avec ce que je dis, mais sérieusement, même dans les années, même dans les moments difficiles du PSG, même dans ces moments-là, il réussit quand même à se sortir dans les phases de groupe, même dans les phases de groupe vraiment plus difficiles, notamment, je pense à celle de, je pense que c'était 2018-2019 où le PSG s'était retrouvé dans un groupe avec Liverpool et Naples. Ils avaient réussi à terminer premier de ce groupe-là, puis là, en ce moment, je ne sais même pas si le PSG va être capable de s'en sortir puis de terminer premier ou deuxième de ce groupe-là, tellement que le groupe est relevé. Fait que c'est ça que je voulais rapporter comme point.
Un groupe excessivement relevé, en effet. Donc, tantôt, c'était une fausse alerte. Là, c'est la bonne. Voici la fin, la conclusion de cet épisode 14 de Jason Ballon Rond, qui a marqué l'histoire parce que c'est le premier Jason Ballon Rond de Baptiste et de Hans. Les gars, merci beaucoup de vous avoir livré d'excellentes analyses, d'excellents commentaires. Donc, merci beaucoup pour votre premier passage. Et d'où, merci, comme à l'habitude, d'avoir été là.
Plaisir.
Sur ce, on surveille la Ligue des champions cette semaine, le Ballon d'or également. Et je vous souhaite une très bonne semaine sur la planète foot. Et on se revoit très bientôt pour un autre épisode de Jason Ballon Rond.